Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgan Guerrier et Eric Manirakiza en votre compagnie. Bienvenue dans cette édition du mardi 27 septembre 2016, dont voici les principaux titres. Ali Bongo investi pour un second mandat de 7 ans dans un Gabon divisé. Condamnation d'un djihadiste malien à 9 ans de prison par la CPI pour destruction de mausolée à Tombouctou. L'OTAN accuse la Russie de violation flagrante du droit international sur la ville syrienne d'Alep. Hillary Clinton et Donald Trump repartent aujourd'hui en campagne après un premier débat télévisé tendu, l'économie et les sports, juste après le journal.
Au Gabon, Ali Bongo Ondimba a prêté serment aujourd'hui pour un nouveau mandat de 7 ans. Quelques chefs d'État africains ont assisté à la cérémonie au palais présidentiel en bordure de mer. On fait le point avec notre correspondant à Libreville, Jean-Rovis Dabani.
Je jure de respecter et de défendre la Constitution et l'état de droit et d'être juste envers tous, je le jure.
Ces mots ont été récités par Ali Bongo, 57 ans, devant la Cour constitutionnelle au palais de la présidence de la République. Main droite levée vers le drapeau vert jaune bleu du Gabon et main gauche sur la Constitution. Pour saluer son investiture, des coups de canon ont alors été entendus près du palais présidentiel où s'est déroulée la cérémonie. Auparavant, Marie-Madeleine Borantio, présidente de la Cour constitutionnelle, a rappelé la décision des 9 juges proclamant vainqueur Ali Bongo. Les chefs d'État du Mali, du Niger, du Togo et de Sao Tomé y assistaient à la prestation de serment, ainsi que les premiers ministres du Sénégal, du Tchad, du Congo, de la Centrafrique et du Maroc. La France était représentée par son ambassadeur à Libreville, tout comme les États-Unis. Juste après avoir prêté serment, le chef de l'État a ensuite prononcé une allocution devant les corps constitués du Gabon. Bongo a appelé les anciens candidats à la présidentielle de se joindre à lui pour, je cite, « construire un Gabon nouveau ». Dans la salle, 4 des 10 candidats à la présidentielle y avaient pris part. Mais pas Jean-Pierre, qui dénonce toujours la victoire de Bongo. Libreville, Jean-Rovis Dabani, VOA Afrique.
Le nord-ouest de la RCA, la République centrafricaine, en proie depuis plusieurs jours des violences qui auraient déjà fait plus d'une dizaine de morts et de milliers de déplacés. Le point avec Freeman Sipila à Bangui.
Plusieurs localités de la préfecture de Lampindi sont passées ces jours-ci sous le contrôle des hommes du général Sidiki, un chef rebelle peul originaire du Cameroun. Aujourd'hui, c'est la commune de Dégol qui est visée par une attaque de ces hommes armés. Les détonations des armes lourdes et légères ont obligé plusieurs centaines de familles à fuir vers la ville de Bokaranga, située à 40 km de Dégol. Pourquoi cette flambée de violence? Les autorités locales expliquent que le général Sidiki assure avoir reçu l'aval de Bangui pour sécuriser la région du Nord-Ouest. Propos formellement démentis par Jean-Serge Bokassa, ministre centrafricain de la Sécurité publique. Joint au téléphone par VOA Afrique, le général Sidiki parle d'une opération de ses hommes pour sécuriser les éleveurs et leurs troupeaux régulièrement menacés par des miliciens anti-Balaka. Ces nouvelles violences condamnées par Bangui auraient déjà fait une dizaine de morts, de nombreuses habitations incendiées et des milliers de déplacés. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
République démocratique du Congo, les Nations Unies demandent une enquête indépendante, transparente et crédible sur les récentes violences. Une mesure jugée nécessaire pour traduire les auteurs en justice et éviter une aggravation de la crise. On rappelle que les 19 et 20 septembre, des affrontements ont éclaté à Kinshasa en marge d'une manifestation de l'opposition exigeant le départ du président Joseph Kabila à la fin de son mandat. L'ONU compte 49 civils tués et 4 policiers également tués.
Un djihadiste malien a été condamné lors d'un verdict historique à 9 ans de prison par la CPI pour avoir détruit des mausolées protégés à Tombouctou. Un jugement salué par l'ONU et les ONG comme un signal fort contre la destruction de patrimoine culturel. Les précisions de Tatiana Mosso.
Le Touareg Ahmad Al-Faki Al-Mardi était accusé de crimes de guerre pour avoir dirigé intentionnellement des attaques contre 9 des mausolées et la porte de la mosquée Sidi Yahya entre le 30 juin et le 21 juillet 2012. Les juges ont affirmé qu'il était membre d'Ansar Dine, l'un des groupes djihadistes qui ont contrôlé le nord du Mali pendant environ 10 mois en 2012. En tant que chef de la Hizba, la brigade islamique des mœurs, il avait ordonné et participé à la destruction de mausolées classées patrimoine de l'humanité. Les juges ont toutefois retenu plusieurs circonstances atténuantes en faveur d'Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi. Il avait admis sa culpabilité et avait demandé pardon à l'ouverture de son procès. Al-Mahdi est le premier djihadiste à être jugé à La Haye dans le cadre du conflit malien.
Et Sénégal, un détenu de la prison de Rebus à Dakar a succombé à des blessures par balle. C'est ce qu'a annoncé le rapport d'autopsie. Ibrahim Afal, 33 ans, avait été touché à la tête il y a une semaine lors d'une mutinerie dans ce centre pénitentiaire surpeuplé. Le ministre de la Justice, Sidiki Kaba, a annoncé la construction de deux nouvelles prisons d'une capacité totale de 2000 places.
Guinée équatoriale, les mineurs enceintes ne seront plus admises dans les établissements scolaires primaires et secondaires, mais nombreux sont ceux qui dénoncent une violation du droit universel à l'éducation.
Quatre Angolais et deux expatriés ont été tués en Angola dans un accident d'hélicoptère affrété par la société pétrolière américaine Chevron. L'accident s'est produit hier soir au large de l'enclave pétrolière angolaise à Cabinda.
Le gouvernement du Sud-Soudan a exhorté le Soudan et les États voisins de ne pas laisser le chef de l'opposition Riek Machar reconstruire une nouvelle rébellion. Machar se trouve dans la capitale soudanaise Khartoum. Il a fui Djouba suite aux combats qui ont éclaté entre ses partisans et ceux dont son rival, le président Salva Kiir. Salwa Jafari.
L'appel fait suite aux menaces de Riek Machar dimanche. Il a menacé de lancer une nouvelle rébellion si ses demandes ne sont pas prises en considération. Les deux camps avaient signé un fragile accord de paix en 2015, après deux années de conflit. Après des entretiens à Khartoum avec les commandants et les responsables de son mouvement, le SPLM-IO, la semaine dernière, Machar a donné le feu vert à ses forces pour se réorganiser afin de mener une résistance armée au gouvernement de Salva Kiir. Son porte-parole a ajouté depuis Nairobi que le gouvernement doit renouveler le mandat de Machar comme vice-président, le laisser retourner à Djouba avec plus de troupes, permettre le déploiement rapide d'une force de protection régionale et annuler toutes les décisions prises depuis juillet. Les tensions croissantes menacent de replonger le Soudan du Sud dans un nouveau conflit.
L'ONU a déploré le nouveau report des élections en Somalie, mais a estimé qu'il pouvait se révéler nécessaire pour organiser des scrutins transparents et crédibles dans ce pays.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et dans le reste du monde, au moins 17 personnes ont été tuées et plus de 50 blessées aujourd'hui dans des attentats à la bombe revendiqués par le groupe État islamique. Ces attaques ont visé plusieurs quartiers chiites de Bagdad.
Deux soldats afghans soupçonnés de liens avec les talibans ont froidement abattu dans leur sommeil 12 de leurs camarades dans la province troublée de Kunduz. Les deux soldats ont pris la fuite après leur forfait. Des attaques dites de l'intérieur, comme celle-ci, ont visé à plusieurs reprises des forces afghanes et étrangères, pesant sur le moral des troupes et créant la méfiance dans leurs rangs.
L'armée syrienne a pris aujourd'hui le contrôle d'un quartier rebelle d'Alep. Après plusieurs jours d'intenses bombardements, les États-Unis ont protesté contre cette campagne de bombardement. Le secrétaire général de l'OTAN a dénoncé ce qu'il a appelé des effroyables attaques sur Alep, moralement totalement inacceptables et une violation flagrante du droit international. La France a appelé la Russie et l'Iran à sortir de leur trouble jeu dans le conflit syrien et à faire cesser les crimes de guerre commis par Damas. Par ailleurs, l'OTAN a estimé aujourd'hui, Morgan, que l'Union européenne pouvait renforcer ses moyens de défense sans porter préjudice à l'Alliance atlantique. Mais le gouvernement britannique affiche de vives réticences à ce sujet. Il n'y a pas de contradiction entre une défense européenne forte et une OTAN forte, a plaidé le patron de l'Alliance.
Le prix Nobel de la paix et ancien président israélien Shimon Peres est entre la vie et la mort, selon son entourage. Son état s'est aggravé ce mardi, deux semaines après son hospitalisation pour un accident vasculaire cérébral.
Ankara continue l'épuration dans ses institutions. 87 agents des services de renseignement ont été limogés pour des liens présumés avec la confrérie de l'ex-prédicateur Fethullah Gulen, accusé d'avoir fomenté le putsch avorté de mi-juillet.
Le chef de la diplomatie britannique Boris Johnson, en visite en Turquie, a tenté de minimiser ses piques sur ce pays. Et son président prononcé lors de la campagne sur le référendum du Brexit, soucieux visiblement de préserver les relations avec Ankara. Au cours de la campagne sur le Brexit, M. Johnson avait présenté une éventuelle adhésion de la Turquie à l'Union européenne comme une menace pour l'Europe.
L'organisation Médecins sans frontières a publié aujourd'hui les résultats d'une enquête sur un raid aérien contre un hôpital qu'elle soutenait au Yémen, accusant la coalition arabe sous commandement saoudien de s'être livrée à une attaque injustifiée. Ce raid avait fait 19 morts et 24 blessés.
Des millions de Saoudiens ont signé une pétition appelant à l'abolition du système de tutelle dans ce royaume ultra-conservateur, où les femmes ont besoin de l'autorisation d'un tuteur pour travailler, étudier ou voyager, selon des militants. La pétition qui s'adresse au roi Salman, au pouvoir depuis 20 mois, a recueilli au moins 14 700 signatures.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Nani Talani.
L'Organisation mondiale du commerce, OMC, a revu à la baisse ses prévisions de croissance du commerce mondial pour 2016, prévenant qu'il s'agira de la plus lente depuis la crise financière. L'OMC prévoit une croissance de l'ordre de 1,7% cette année, bien moins que les 2,8% prévus en avril. La cause, c'est le ralentissement de la croissance du PIB et du commerce dans les économies en développement telles que la Chine et le Brésil, mais aussi en Amérique du Nord. La prévision pour 2017 a aussi été révisée à la baisse. La Banque africaine de développement va apporter 4,1 milliards de dollars au Nigeria en 2016 et 2017, pour relancer son économie, entrée en récession et plombée par la dépendance au pétrole, a annoncé hier lundi le président de la banque, Akinyemi Adesina. Un premier prêt d'un milliard de dollars sera présenté au conseil d'administration de la banque dans un mois. La réunion des pays producteurs de pétrole prévue à Alger demain mercredi a peu de chances de déboucher sur un accord pour geler la production et faire remonter les prix en raison des divergences entre l'Iran et l'Arabie Saoudite.
Votre moment des sports avec Nicolas Pinot. Bonsoir Nico.
Bonsoir Eric.
On commence bien entendu par le football, la Ligue des Champions en Europe ce mardi.
Dortmund face au Real Madrid. On suivra notamment au Borussia les sourires des deux hommes en forme, Pierre-Emerick Aubameyang et Ousmane Dembélé. Au Real Madrid, c'est plus crispé. Zinedine Zidane a commis un crime de lèse-majesté en sortant le week-end dernier en Liga. La star Cristiano Ronaldo, affaire à suivre. Le Sporting de Lisbonne face au Legia Varsovie, Monaco contre le Bayer Leverkusen, le CSKA Moscou contre Tottenham et puis Leicester, le champion anglais en titre, accueille Porto. Copenhague contre Bruges et en l'absence de son buteur vedette Alexandre Lacazette, Lyon se déplace à Séville. Enfin, la Juve sans Pogba, partie vous le savez à Manchester United. La Juve qui doit se relancer à Zagreb face au Dynamo.
Et Stéphane Cessaignon veut se relancer à Montpellier, Nico.
Après 5 saisons passées en Angleterre, Cessaignon s'est engagé hier avec Montpellier. L'international béninois de 32 ans retrouve ainsi la Ligue 1 5 ans après avoir quitté le Paris Saint-Germain. Il était libre de tout contrat. Son point de chute sera finalement Montpellier. À 32 ans, Stéphane Cessaignon retrouve le championnat de France. Il avait notamment joué en Angleterre à West Brunswick, Albion.
Enfin, le basketball nord-américain, c'est la NBA. Chris Bosh à Miami, c'est probablement terminé selon le président du Heat, n'est-ce pas Nicolas?
Nous avons le sentiment que la carrière de Chris Bosh au Heat est probablement terminée. Le président de la franchise NBA de Miami, Pat Riley, a reconnu hier qu'il ne comptait plus sur sa vedette, toujours indisponible pour des raisons médicales. Cette déclaration intervient 3 jours après que Bosh, 32 ans, sélectionné 11 fois pour le All-Star Game, a passé la visite médicale de début de saison, une visite qui ne lui a pas permis de recevoir le feu vert des médecins pour retrouver les parquets. L'ailier fort n'est plus apparu en NBA depuis le 9 février dernier. On rappelle que Bosch est double champion NBA. Il a disputé 53 matchs la saison dernière. Il tourne en moyenne à 19 points. Il était devenu le pilier de Miami après le départ de LeBron James pour Cleveland en 2014 et de Dwayne Wade pour Chicago en juillet.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique. Morgane Guiriek, Eric Manilakiza, de retour avec vous. Place au dossier du jour.
Et verdict historique de la Cour pénale internationale. Le djihadiste malien Ahmad Al-Faki Al-Mardi a été condamné à 9 ans de prison pour avoir détruit des mausolées protégées à Tombouctou, au nord du Mali. Le jugement prononcé à La Haye, aux Pays-Bas, a été salué par l'ONU et les ONG comme un signal fort contre la destruction de patrimoine culturel. Réaction à Tombouctou dans ce reportage d'Abdoulaye Traoré.
Le destructeur des mausolées de Tombouctou, Ahmad Al-Faki Agalmahadi, jugé par la Cour pénale internationale, est fixé sur son sort ce jour. 9 ans, c'est le verdict prononcé à l'encontre du premier terroriste jugé par la CPI pour crime contre les édifices à caractère religieux. À l'annonce du verdict, les habitants de Tombouctou sont divisés. Pour certains, la Cour a été très clémente. Pour certains, c'est acceptable. D'autres trouvent que 9 ans, c'est trop pour quelqu'un qui a reconnu les faits et demandé pardon. Écoutons la réaction de quelques habitants de Tombouctou, Baba Abdou Touré et Mahamoudou Traoré.
Bon, en tant que Tomboxien, je dirais que je suis vraiment choqué. Mais le bon Dieu, le Tout-Puissant, a dit toute personne qui faute, en tout cas si la personne reconnaît vraiment sa faute, il doit être pardonné. Surtout entre nous, musulmans. En réalité, je souhaiterais bien qu'on lui pardonne, mais il doit être puni. Il doit être puni. Les 9 ans, pour moi, c'est trop. Pour moi, les 9 ans sont trop. On peut lui donner, ça n'engage que moi, hein. On peut lui donner 5 ans d'emprisonnement, c'est pour donner leçon aux autres. En réalité, on doit vraiment le pardonner. On doit vraiment le pardonner, mais les 9 ans, comme vous l'avez si bien dit, on doit lui faire un petit rabais, c'est-à-dire de 9 ans, on doit lui faire un rabais de 5 ans.
Moi, 9 ans et peu, parce que pour qu'elle ne produise pas encore, il faut au moins 10 ans bien condamné à moi. Parce que nous, ce qu'il nous a fait, vraiment, c'est vraiment désolé et honteux, nous, même en tant qu'un Tomboxien. 9 ans et peu, même si c'est condamné à mort ou bien 20 ans, moi, je crois que tout ce qu'on lui fait comme mal, moi, je crois que c'est lui qui a cherché et puis il mérite ça aussi.
Pour San Shirfi Alpha, chercheur descendant d'un saint dont le mausolée a été détruit, le plus important, c'est la reconstruction des mausolées et souhaite que cette peine soit une mise en garde pour d'autres. Abdoulaye Traoré, depuis Tombouctou pour VOA Afrique.
Dans Washington Forum ce jeudi, le point sur la situation politique au Gabon, la Cour constitutionnelle a validé la victoire d'Ali Bongo, réinvesti à la tête du pays pour un deuxième septennat consécutif. Son rival Jean Ping conteste toujours cette élection, se considérant comme l'élu. Comment le président gabonais pourra-t-il réconcilier un pays divisé par des violences post-électorales? Quel avenir pour l'opposition? La communauté internationale aurait-elle pu s'impliquer davantage? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Retrouvez-moi dans Washington Forum. C'est ce jeudi à 19h temps universel.
Crise sociale au Tchad, alors que le Premier ministre a fait faux bond aux étudiants hier en faisant annuler son rendez-vous avec l'UNET, qui proteste contre la suppression des bourses d'études. Il a aujourd'hui envoyé une délégation pour faire une simple annonce devant des syndicats de fonctionnaires qui s'attendaient à une discussion avec lui sur les 3 mois d'arriéré de salaire des agents de l'État. Nathalie Barge a joint à N'Djamena le président de l'Union des syndicats du Tchad, Michel Barka.
Nous avons rencontré le gouvernement ce matin. C'était sur invitation du Premier ministre. Tous les syndicalistes étaient conviés à une réunion avec le Premier ministre qui malheureusement était absent, mais c'était représenté par un certain nombre de ministres, particulièrement par le ministre de la fonction publique chargé du dialogue social, qui a lu une communication en son nom. Cette communication était justement nous annoncer que désormais 80% de nos indemnités seront réduites. La réduction de ces indemnités concerne tous les agents de l'État. Et de 80%, 100% pendant 18 mois. Sans aucune négociation, cette mesure est tombée comme ça sur nous et il n'y avait pas de discussion. Nous nous sommes retirés, chacun dans son état-major se prépare à donner une réponse au ministre, au gouvernement dans les prochains jours. Soyez sûr que la situation ne va pas être la meilleure.
Quelle a été votre réaction à vous-même par rapport à cette annonce?
L'Union des syndicats du Tchad a convoqué immédiatement le Conseil national syndical qui va se réunir le jeudi et qui prendra la décision qui s'impose. Nous croyons que les conseillers demandent une grève sans service minimum partout et dans toutes les administrations. C'est possible parce que les réactions que nous avons maintenant tendent vers ce sens et puisqu'il n'y a aucun dialogue avec le gouvernement, il parle du dialogue, mais il nous a annoncé ces mesures sans dialogue. Nous, on ne peut pas comprendre que le gouvernement puisse nous faire payer le prix de la mauvaise gouvernance dans la mesure où plusieurs fois nous lui avons dit que certaines choses n'étaient pas bonnes, les détournements, la corruption dans l'administration et l'impunité. Nous avons toujours dénoncé toutes ces mesures pour que la situation s'améliore. Mais malheureusement, il a laissé faire. Et s'il est aujourd'hui devant une situation difficile à gérer, bon, il n'a qu'à assumer. En ce qui concerne les travailleurs de l'UST, c'est pratiquement depuis le 9 septembre que nous sommes en grève. Et pour la simple raison que depuis un certain temps, nous avons averti le gouvernement en lui disant qu'à chaque fois que les salaires vont traîner jusqu'au 9 du mois prochain, nous serons obligés d'arrêter le travail. Et ça se poursuit jusqu'à aujourd'hui, avec service minimum dans les hôpitaux.
Quelle issue voyez-vous à ce problème de salaire impayé au Tchad, sachant que l'on vous brandit toujours la raison des problèmes économiques?
On met tout sur le dos de la baisse du prix du baril. Et personne n'arrive à comprendre comment, brutalement, il n'y a plus de recettes au niveau des caisses de l'État. Mais déjà, nous, on a sonné au niveau des syndicats. Depuis un certain temps, nous avons fait des suggestions. Malheureusement, nous n'avons pas été écoutés. Ça nous a valu parfois à la prison.
Le président de l'Union des syndicats du Tchad, Michel Barka, à N'Djamena.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Fondée en 1998, l'ICANN est une société de régulation de l'Internet qui attribue les noms de domaines et les numéros sur la toile. Sous tutelle américaine depuis sa création, l'ICANN s'apprête à devenir totalement indépendante. Une transition dénoncée par les républicains aux États-Unis qui veulent garder leur souveraineté sur le web mondial. Pour en savoir plus, Claire Morin-Gibou rejoint Mathieu Veil, directeur de l'AFNIC en France, organisme membre de l'ICANN et qui gère les sites en .fr. Il a participé au débat et à la réforme de l'ICANN.
Alors l'ICANN est une organisation dont la mission est de coordonner certaines des ressources techniques de l'Internet. Ce sont des choses que l'utilisateur normal de l'Internet ne voit pas forcément au quotidien, mais qui sont indispensables pour le bon fonctionnement de l'Internet et pour le fait que cela fonctionne où qu'on soit dans le monde, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et donc l'ICANN a un rôle de coordination qui est très limité, mais qui est aussi très important, puisque sans ce rôle, l'Internet mondial ne pourrait pas exister.
Alors, on a beaucoup évoqué les États-Unis comme gendarmes du net, effectivement, parce qu'ils ont la tutelle de l'ICANN, et ce, depuis la création. Normalement, le 1er octobre, l'ICANN va devenir indépendante. Quels sont les enjeux de cette transition?
L'enjeu principal, c'est un contrat qui date de 1998 et qui donne effectivement aux États-Unis une sorte de tutelle sur la gestion des ressources techniques de l'Internet. Et l'enjeu, c'est de mettre fin à ce rôle spécifique des États-Unis et de passer le relais à une gestion par la communauté Internet, c'est-à-dire par tous les acteurs impliqués, les gouvernements, les industriels, la société civile, de manière un peu plus équilibrée et au service de l'intérêt mondial et pas seulement des intérêts américains.
Ici aux États-Unis, les républicains veulent bloquer cette transition. Peuvent-ils bloquer cette transition et de quoi ont-ils peur?
Ils ont un argument principal qui est de dire finalement en quoi est-ce l'intérêt de l'Amérique de transférer au monde la responsabilité de l'Internet que nous avons créé. C'est la raison pour laquelle il y a un débat très important actuellement entre démocrates et républicains, dont nous attendons le dénouement dans les prochains jours. Mais si le Congrès américain demande au gouvernement d'attendre, il est clair que l'administration Obama ne sera pas en mesure de passer en force et cette transition risque d'être reportée sine die.
Voilà, c'était Mathieu Veil, directeur de l'AFNIC France, organisme membre de l'ICANN.
Présidentielle américaine 2016, premier débat entre la démocrate Hillary Clinton et son adversaire républicain Donald Trump a eu lieu ce lundi soir à l'université Hofstra de New York. Un débat historique entre la première femme investie par un des partis majeurs et un homme d'affaires dont les débuts en politique sont comparables à un coup de maître. Idrissa Seydou Dia et Timothée Donangmaï nous en disent plus.
À quelques 6 semaines de la présidentielle du 8 novembre, les deux principaux candidats, pratiquement au coude à coude, ont saisi l'occasion pour tenter de rallier les indécis à leur cause. Le débat a démarré sur les chapeaux de roue avec une question sur ce qu'il convient de faire de l'économie américaine. Pour Mme Clinton, il faut bâtir une économie qui bénéficie à tout le monde et non à ceux d'en haut uniquement. Le candidat républicain, lui, a dénoncé la fuite des emplois américains qui, selon lui, vont au Mexique et dans d'autres pays. Donald Trump s'en est pris à la Chine, qu'il accuse de dévaluer sa monnaie pour se donner l'avantage.
La question de la transparence et donc du degré de confiance ou de méfiance qu'inspire chaque candidat a été abordée durant la discussion sur la feuille d'impôt de Donald Trump.
Et cette feuille d'impôt n'a toujours pas été rendue publique.
I will release my tax returns against my lawyer's wishes. When she releases her 33,000 emails that have been deleted.
Je publierai ma feuille d'impôt lorsqu'elle publiera ses 33 000 emails qui ont été effacés, une allusion à la controverse suscitée par l'utilisation par Mme Clinton d'un serveur privé pour ses communications du temps où elle était secrétaire d'État et duquel des milliers d'emails ont été effacés. Pour sa part, Mme Clinton a dit avoir sa petite idée sur les raisons pour lesquelles le candidat républicain ne veut pas publier sa feuille d'impôt.
First, maybe he's not as rich as he says he is.
Et peut-être qu'il n'est pas aussi riche ou aussi charitable qu'il le prétend, ajoutant qu'une bonne part des affaires de Donald Trump n'est pas connue. Peut-être qu'il ne veut pas que les Américains sachent qu'en utilisant des techniques de comptabilité, il ne paie pratiquement pas d'impôt fédéral, a ajouté Mme Clinton. Au plan de la politique étrangère, Donald Trump a accusé l'administration Obama de ne rien faire face aux agissements de la Corée du Nord. Évoquant les alliés des États-Unis au Moyen-Orient, Mme Clinton a accusé Donald Trump d'avoir insulté les musulmans ici aux États-Unis comme à l'extérieur, suscitant l'inquiétude des pays alliés.
Eh bien, merci Timothée. Vous avez aussi recueilli la réaction de l'ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines, le républicain Herman Cohen.
Tous les deux se sont bien défendus. Il n'y avait pas beaucoup de fautes. Mais en général, je crois que peut-être Mme Clinton avait terminé avec un avantage sur Trump.
Autre réaction, celle du professeur démocrate Edgar Colley de l'Université de Monterey en Californie.
Les candidats sont restés fidèles à leur style. J'ai eu l'impression que M. Trump ne s'intéressait pas beaucoup à ceux qui ne sont pas déjà de son côté. J'ai eu l'impression qu'il s'adressait directement à ceux qui vont probablement voter pour lui.
La dernière réaction, celle de Leonard Van Chekon, professeur de sciences politiques et d'économie à l'Université Princeton, dans l'État du New Jersey.
Clairement, Mme Hillary Clinton a gagné le débat. Vers la fin, Donald Trump s'est effondré, quoi, tout simplement.
Professeur Leonard Van Chekon, professeur de sciences politiques et d'économie à l'Université Princeton, dans l'État du New Jersey.
Et c'est la fin de cette édition. Souleymane Tarawalé a dirigé la mise en onde. Non, c'était donc Georges Léonard Sagnot à la mise en onde et Souleymane à la console, Morgane Guiriec et Eric Maniarakiza à la présentation.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de VOA Afrique. Merci à nos fans sur Facebook, près de 2 millions déjà. On maintient la conversation afin de rester branché sur notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24/24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM, Raga FM, Kinshasa, Soleil FM, Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.